Nous sommes aujourd'hui donc à la carte TGV, à quelques minutes du retour de Colette Ivrard qui est venue donc pour poursuivre sa préparation autour de l'exposition Retour sur l'abîme, l'art à l'épreuve du génocide qui sera visible à Belfort et Montbéliard à partir d'octobre prochain. Alors ben Colette, enchantée et contente de te retrouver.
Bonjour, je suis contente de te retrouver aussi.
Après une première rencontre il y a quelques jours lorsque tu étais déjà venue à Belfort, toujours pour ce travail. Alors justement, peut-être nous dire quelques mots de cette installation que tu conçois, étape par étape, pour le musée, donc pour la palissade des musées dans la cour de la Citadelle. Et cet après-midi, tu reviens d'un rendez-vous justement au pavillon des sciences où tu as été sollicité l'aide du Fab Lab pour intervenir dans ton travail.
Oui, j'ai comme projet d'intervenir sur la palissade qui, à l'origine, devait être démolie parce qu'il a actuellement des travaux derrière le musée. Donc la palissade n'a pas vocation à rester. J'ai trouvé que c'était intéressant d'utiliser un élément comme celui-là pour mon installation.
D'accord. Et en quelques mots aussi, tu as sollicité des voix de personnes pour cette installation.
Alors, mon installation consiste à... Je vais utiliser cette palissade pour marquer dessus une phrase que j'ai tirée de Walter Benjamin, de ses thèses sur l'histoire, qui dit « Même les morts ne seront pas en sûreté ». Et j'aime beaucoup par rapport à la question de l'histoire et de la catastrophe, etc. Et... Derrière cette palissade seront dits les noms des personnes qui ont été déportées depuis Belfort jusqu'à, en général, Auschwitz. Ou bien, pour certains,
Et ces noms, donc, ils ont été recueillis lors de plusieurs recherches au musée de l'histoire du judaïsme à Paris. Et dans un autre lieu, je crois.
Oui, alors j'ai comparé la liste des personnes qui étaient inscrites sur le monument aux morts dans le cimetière juif de Belfort, les personnes répertoriées au mémorial de la Shoah à Paris, et puis aussi une liste qui avait été établie par une personne qui a fait sa thèse sur Lucie Renard, qui a fait sa thèse sur la déportation en Franche-Comté.
Alors, ton travail, pour ce qui me concerne, je le découvre depuis peu, mais il est vraiment, je dirais que cette notion de relation à la mémoire est un peu centrale dans ton travail. Et donc justement, peux-tu nous dire aussi un mot sur un livre dont j'ai découvert que tu avais été une des participantes, à savoir « Quel bruit ferons-nous » avec Arlette Farge et Jean-Christophe Marty, qui a été édité il y a quelques années aux Prairies Ordinaires, et tu as fait une illustration de ce livre, en tout cas de quelques pages peut-être de ce livre, avec une série de photographies. Moi j'aimais bien ce livre sans l'avoir lu, je dirais, mais par rapport à l'auteur que j'apprécie beaucoup, Arlette Farge, et peut-être aussi « Quel bruit ferons-nous ?» C'est peut-être un écho quelque part, cette question, elle fait aussi écho à ce travail ici pour Belfort.
Oui, elle fait écho à ce travail qui est venu bien après hein, pour Belfort, parce que là j'avais été contactée par c'était Jean-Christophe Marty, je crois, qui m'avait contactée pour ce livre, qui avait vu mon travail et qui m'a mis en relation avec Arlette Farge, qui a souhaité mettre deux de mes photos qui existaient préalablement à son texte pour illustrer son texte. Donc c'était des travaux que j'avais fait, que j'appelais les petits monuments, à partir d'objets récupérés sur place, que je mettais en relation avec les monuments de Paris, en reprenant vaguement, de manière approximative, la forme de ces monuments.
Donc l'un au Sacré-Cœur et l'autre à Lyon.
Alors à Lyon, c'était un autre travail que j'avais fait à partir des petits messages trouvés par terre. Je mettais aussi en relation avec les lieux dans lesquels ils avaient été trouvés, comme une légende du paysage ou de la photographie. C'était des objets de peu, hein, c'est ce qui m'intéressait. C'était des objets justement pas à l'égal des grands monuments pour les grands hommes, mais c'est des petits objets qu'on trouve par terre de tout un chacun.
Un peu à l'image de la série des photos que tu réalises aussi avec les ombres.
Et c'était à la suite de ces photos qui consistaient en travailler avec des matériaux récupérés, donc pareil, des matériaux de pauvres, des conditionnements d'objets, etc., qui étaient destinés à être jetés, que je recyclais en quelque sorte pour projeter une image en ombre à partir des constructions faites au moyen de ces objets.
Alors ensuite, l'autre point que je voulais aborder avec toi, c'était en quelques mots aussi ton engagement comme enseignante depuis 2005 à l'École supérieure d'art et de design du Havre-Rouen. Et donc là-bas, tu es donc une des enseignantes de cette école. Et quelle est peut-être en quelques mots, c'est peut-être une question trop difficile pour laquelle il est trop difficile de répondre en quelques minutes, mais quel est ton rapport justement entre l'enseignement et ta pratique artistique? Parce que c'est beaucoup d'enseignants de Beaux-Arts sont eux-mêmes artistes, mais voilà ce tandem-là.
Alors, au départ, j'étais engagée comme professeure de photographie et j'essaye d'élargir cette question de la photo à la question de l'image, au rapport, alors l'image là où elle se présente, c'est-à-dire elle peut être aussi bien en littérature que dans le domaine de la photographie, du cinéma ou d'autres domaines. Donc, j'essaye de faire en sorte que ce que j'ai appris, alors aussi bien mes études que mes lectures, que mon travail d'artiste, contamine mon enseignement. À ce niveau-là, donc ça se contamine forcément, parce que ce qu'on lit d'un côté est bénéfique d'un autre côté. Quant à ma pratique artistique, alors j'ai peut-être jusqu'à présent c'était assez scindé, c'était pas, enfin je faisais pas faire aux étudiants ou je les guidais pas dans une vers un geste qui aurait été proche du mien. Parce que pour chaque étudiant, faut arriver au contraire à développer chez chaque étudiant ses singularités, hein, ce pourquoi il veut travailler. Alors c'est un peu différent pour un laboratoire de recherche qu'on va mettre en place l'année prochaine, qui sera sur la question des images. Et on va travailler sur une anthropologie des images à partir d'images récupérées autour de l'école des Beaux-Arts de Rouen, dans une cité dans laquelle il y a beaucoup de primo-arrivants, de personnes d'origine étrangère qui viennent avec beaucoup d'images de toutes sortes et avec lesquelles on va travailler cette année. Donc ça rejoint peut-être un peu plus ma collecte d'images dans mon travail personnel.
Très bien. Alors maintenant, je voudrais qu'on évoque deux figures que tu as côtoyées dans tes études, qui sont des penseurs très importants de la modernité. Peut-être d'abord, et ça c'est une belle surprise, Jean-Claude Moineau, chronologiquement, puisque tu l'as côtoyé en maîtrise. Il a été ton directeur de maîtrise. Et donc j'ai apporté comme petite surprise une acquisition récente de la médiathèque, de l'espace multimédia, Lecture rapide, un travail réalisé par Jean-Claude Moineau avant qu'il n'en vienne à la critique, Jean-Claude Moineau artiste. Donc voilà, peut-être un souvenir de lui et puis peut-être quelques mots sur ce livre que tu découvres aussi.
Oui, c'est une bonne surprise, vraiment. Parce que j'avais vu quelques travaux de Moineau, mais il était un peu réticent à montrer ce qu'il faisait à l'époque où il a suivi ma maîtrise. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui m'a vraiment accompagnée, qui j'ai beaucoup apprécié comme enseignant, pas tellement forcément de manière exactement, comment dire, par rapport disons, à différents niveaux de transmission. Sa complicité avec les artistes contemporains, le fait que, comment dire, il n'était pas du tout académique dans sa manière d'enseigner, et puis, son attrait pour l'art conceptuel aussi. Puis là, j'ai découvert dans ce livre aussi tout son travail, bon, je savais qu'il travaillait là-dessus, hein, de poésie concrète, autour de la poésie concrète ou de l'emplacement des mots dans l'espace de la feuille, tout ce travail qui ressurgit, enfin que j'utilise maintenant dans mon travail. Alors, je suis assez heureusement surprise, je pense qu'il y a des choses qui sont passées, enfin, malgré moi, quoi, et malgré lui aussi finalement, à travers son enseignement, même si ce n'était pas directement à travers son enseignement, mais dans sa sensibilité avec laquelle j'étais bien en phase en tout cas. Tout ce qui est signalisation dans son travail, fléchage, travail avec les logos, etc.
Merci. Et puis donc peut-être maintenant un autre mot sur la suite de tes études. Après la maîtrise, c'est le DEA mené sous la conduite de Jacques Rancière. Alors Jacques Rancière, là j'ai amené deux petits livres également, peut-être parmi les plus connus, Le partage du sensible, Le spectateur émancipé. Et moi récemment, j'ai lu et beaucoup aimé Le maître ignorant autour de la figure de Jacques Otto. Alors peut-être voilà encore un mot sur cette figure que tu as côtoyée.
Alors Jacques Rancière, il m'a permis d'oublier un certain nombre de choses que j'avais appris en art plastique parce qu'il est en enseignant en philosophie et de faire éclater les catégories. Comment dire, les catégories esthétiques, historiques. On parlait beaucoup de postmodernisme à l'époque où je fais l'art plastique. Pour Jean-Claude Monod, ça ne correspond pas à grand-chose. Par contre, il établit des tressages, des filiations, des relations entre des choses qui sont en dehors de, comment dire, de toute norme, de toute volonté de découpage. Et donc, il crée plutôt du lien. Et ça m'a vraiment ça a complètement modifié ma façon de voir. Il sort de tout sectarisme en fait. Donc c'était vraiment enrichissant pour moi de constater ça. Alors en ce qui concerne le maître ignorant, etc., c'est aussi une manière de sortir d'une forme d'académisme et de relation au savoir qui serait hiérarchique. Hein. Et puis une manière aussi de traiter de la l'égalité que j'ai trouvée aussi très forte parce qu'elle établit l'égalité tout de suite. Là maintenant, c'est pas un projet, c'est on le met en œuvre aujourd'hui dans sa manière de travailler, d'être avec les autres et c'est vraiment intéressant aussi. Puis dans le sensible, alors le partage du sensible, ça peut être vu comme une pratique de l'égalité, on partage entre nous le sensible, mais aussi de décloisonner la littérature, les arts plastiques, de trouver des formes qui courent d'un moyen d'expression à un autre et qu'on retrouve comme ça. Et là aussi, ça permet d'ouvrir des champs, de créer des liens. C'est beaucoup ce que j'essaye de faire en ce moment dans mes murs d'images que je vais présenter au granit. Je vais faire un mur d'images au granit.